11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Certains savent que le printemps arrive car ils ont soudain envie de s'accoupler. Lui, c'est en toute saison, été comme hiver, qu'il fait sa parade nuptiale. Ben H.
Bonjour à tous.
Il s'est rendu à la vente aux enchères de la collection d'art de George Michael. En cassant son PL, il a réussi à s'acheter un coupon. Le vrai fan de rock, Jérémy Lorca.
Bonjour à tous.
Il adore l'arrivée du printemps car il peut se poser en terrasse pour manger son plat préféré, une salade niçoise beaucoup de thon. Le niçois d'origine, Laurent Barra.
Salut, bonjour à tous.
Et à tous.
En ce mardi, elle vient de se réveiller, elle a juste attaché ses cheveux dans un chignon qui ne ressemble à rien.
Léa Simati, à vous, bonjour. Et comme notre invitée Emmanuelle Petit, elle a toujours eu l'esprit d'équipe, sauf quand il s'agit de partager le dernier pain au chocolat. Celle qui a un grand cœur, sauf quand on veut lui piquer ses provisions, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Jérémy Lorca reviendra sur la marche pour le climat qui a eu lieu samedi. À 11h30, nous recevrons l'écrivain Michel Bussy pour son livre « J'ai dû rêver trop fort » paru le 28 février aux éditions Presse de la Cité. Ben H vous expliquera pourquoi il s'est trouvé de nombreux points communs avec le personnage du livre. Et à partir de 11h50, c'est le footballeur Emmanuel Petit qui sera notre invité pour son dernier roman « Tacle ». Pardon, pour son roman « Dernier tacle » coécrit avec Gilles Delpapas qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Laurent Barra évoquera le parcours d'Emmanuel Petit et Léa Landau lui prépare une interview droite au but.
11h, 12h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Demain, c'est le printemps. Oui, est-ce que ça vous émoustille? Ça vous réjouit? Vous aimez le printemps, Laurent?
Eh ouais, demain, c'est le retour du printemps. Le soleil, les oiseaux, les fleurs. Il paraît que c'est magnifique.
Pourquoi il paraît?
Parce que tous les ans, au printemps, j'ai les yeux tellement gonflés à cause des allergies que j'y vois rien du tout.
Jérémy?
Moi, j'adore le printemps. C'est le début des chemises à manches courtes, du soleil, des terrasses. Ça me donne envie de flirter. Avec qui, je sais pas, mais ça me donne envie de flirter. D'ailleurs, Laurent, tu te situes comment niveau célibat?
Je suis bien.
Alors c'est ça, Jean-Philippe n'est pas là.
Il se rabat sur Laurent.
C'est gentil, je suis le joker de Jean-Philippe. Ouais,
mais ça va prendre mal.
Ben H.
Moi, vous le savez, j'aime deux choses dans la vie, le printemps et les métaphores. Alors je vous dirais simplement que le printemps, pour moi, c'est les préliminaires. La température monte, ça commence à vraiment chauffer, sortir des couches de vêtements, ça bourgeonne de partout, et on a hâte de passer aux choses sérieuses, les grandes vacances.
Léa.
Moi, j'adore le printemps. Mais ce mot m'agace quand les gens l'utilisent pour donner leur âge. Tu vois, genre, j'ai 40 printemps, alors qu'à 40, on voit bien que ça bourgeonne plus, mais que ça commence à faner. Et quand je vois Anne, je me dis même qu'à partir de 50, il faudrait compter en automne parce qu'il y a tout qui tombe.
Oh mais vous laissez dire ça, vous.
Je vais me déshabiller pour que tu vois s'il y a tout qui tombe.
Ouais,
Que de la gueule.
Ça tient. Je peux t'assurer que ça tient très, très bien. Après, mes fesses étaient déjà tombées quand j'avais 20 ans.
Non.
Elle peut pas remonter, mais
si elles peuvent.
Mais tout tient très bien.
Ah ouais.
Moi, j'en doute pas, patronne.
Faillot. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Le groupe NTM annonce sa séparation. Il aurait déclaré : on est trop vieux pour former le groupe Nique ta mère. À l'âge qu'on a, on nique plus grand chose.
D'après une étude suisse, la musique influencerait le goût du fromage. Eh ben, dis donc, je sais pas ce qu'a écouté le Maroual, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux.
La vente de la collection d'art de George Michael a remporté 10 millions d'euros d'après Christie's. Quand je pense que George Michael m'avait écrit une chanson, I Want Your Sex, vous croyez que c'était pour qui?
Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, a été viré. C'est bizarre quand même, hein. C'est les gilets jaunes qui disjonctent et c'est le préfet qui saute. L'aéroport d'Orly fait sa mue, plus de Orly Sud ou de Orly Ouest, mais un Orly 1, Orly 2, Orly 3, Orly 4. Que les puristes se rassurent, le relais où se sont battus Caris et Booba sera préservé.
Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Jérémy Lorca, Léa Landau, Ben H. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en hôtel 4 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Yeah. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Landau, Ben H, Jérémy Lorca.
Yes.
Bon, allez, c'est le moment de notre jeu.
Oui.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Tout à l'heure, nous recevrons Michel Bussy, le romancier, pour son dernier roman, mais aussi pour la série adaptée de son roman éponyme Un avion sans aile, avec notamment Bruno Solo. Vous devez donc deviner des personnalités qui ont joué dans des séries télévisées françaises.
Il y a quoi à gagner ?
Eh ben, on a gagné un très beau cadeau comme toute la semaine. Si vous avez besoin d'une escapade sous le soleil de Provence, découvrez le Dolce Frégate Provence sur la côte méditerranéenne grâce à Europe 1. Le Dolce Frégate Provence, tentez de gagner un séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner, accès au jacuzzi, sauna, piscine, salle de fitness sur les hauteurs de Bandol, surplombant la mer et les vignes. Le Dolce Frégate 4 étoiles. Provence est un véritable écrin de verdure avec son golf, son spa, ses piscines intérieures et extérieures. Plus d'infos sur dolcefregate.fr.
Pas mal. Dolce qui veut dire douceur.
Petite escapade printanière.
Ouais. Ça fait
pour
du
fêter le printemps. Cadeaux, ouais. Alors on joue d'abord avec Flavie. Bonjour Flavie.
Oui, bonjour Anne, bonjour l'équipe.
Bonjour Flavie.
Flavie, vous êtes mariée depuis 5 ans, vous êtes secrétaire médicale, vous avez 36 ans, à Lorient, dans un centre psychiatrique.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez déjà croisé Laurent Barra?
Dans un train, dans un TER.
Alors, vous avez un talent caché, Flavie, vous déguisez en personnage de Disney, c'est-à-dire.
Est-ce que c'est... Non, faut pas dire ça comme ça, parce que si on dit ça comme ça...
Bonjour Mini.
Ça fait étrange.
Non, c'est... voilà, avec mes filles, on est fans de Disney.
Ouais, ouais.
Et on adore aussi coudre voilà, et préparer des choses. Donc, on adore faire des déguisements. Et c'est vrai qu'on on aime bien quand on est invité à des nouvel an, des anniversaires, des choses un peu déguisées. Ça nous permet de ressortir ce qu'on aime.
Et vous êtes déguisée, vous déguisez en quoi, vous, par exemple ?
Alors,
votre
moi,
personnage
j'ai fait
préféré.
Une robe de Cendrillon, je dois avoir une robe de Blanche-Neige. Et on a fait une course en famille l'année dernière. On avait fait le thème La Petite Sirène.
Ah ouais. Pour courir ?
Voilà. Oui, en fait,
pas évident.
Coup,
hein.
T'arrives en caddie.
Et vos filles, elles se déguisent en quoi ? En princesse aussi ?
Alors, elles aiment bien les princesses, mais elles aiment bien aussi les autres personnages. J'en avais une. Du coup, moi, j'étais en Ariel, la petite sirène, et j'avais un crabe et un poisson pour le chon.
En fait, vous prenez le premier rôle et les enfants.
C'est ça.
Il y avait un enfant en crabe et l'autre en poisson.
Voilà, c'est sympa. Ça, bah, le crabe et le poisson de la petite sirène.
Et votre mari, il se déguise pas ?
Ah si, lui, il était en prince Eric, parce qu'il y a juste une chemise blanche à mettre et un short noir.
Et quand vous faites
un short noir pour un prince ?
Ouais.
Mais un short,
on
fait
avec du bord. Comme... Donc, il
ah,
faire
vous
des
courriez.
Ah ouais.
Évidemment.
Et vous faites des soirées déguisées avec vos amis aussi ? Vous leur demandez de venir en personnage de dessin animé ?
Non, mais on est souvent invité pour les nouvel an. Il y a des soirées comme ça, les 30 ans, les 40 ans des amis. Du coup, ça me permet de ressortir les tenues.
Et vous écoutez l'émission tous les jours, Flavie ?
Alors, on a la radio tous les jours au secrétariat. Moi, j'ai mis Europe 1, voilà, tous les jours.
Bravo.
Maintenant, je ne peux pas toujours tout entendre ce que vous dites parce que mon téléphone sonne, donc je suis entre deux.
Mais mettez-vous sur messagerie.
Mais c'est ça.
Mais son boulot est de répondre au téléphone.
Ah ouais, c'est dommage.
Ah ouais, c'est vrai.
Flavie, vous jouez avec qui ?
Léa.
C'est des personnalités, des comédiens en fait pour l'essentiel hein, qui ont joué dans des séries télé.
C'est vraiment pas évident.
Ouais, c'est pas simple,
pas évident. Alors, attention, top chrono.
Le comédien de Camping Paradis.
Qu'avait... Laurent.
Ouais, ouais, c'est ça. Lui, il a joué, c'est le beau gosse des bronzés avec les yeux bleus. Dans le Père Noël est une ordure, tout ça.
Christophe.
Non, le beau gosse.
Bon, ah, mais je trouve plus.
C'est pas grave. Celle qui a joué dans Gazon Maudit avec Josiane Balasco et qui joue dans Clem. Elle a un accent espagnol. C'est pas grave. Elle joue dans Les Tuches, Tati Daniel dans Munch.
Ah, mais je sais pas.
Oh là là. Lui, c'est le compère de Olivier Barou.
Oh là 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 là.
Mais français, c'était
Thierry Lhermitte. Oui, c'est bien, mais c'est, vous arrivez après la bataille, Flavie.
C'est pas évident, c'est pas évident.
Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, alors c'était Thierry Lhermitte, Victoria Abril qui joue dans Clem, Isabelle Nanty dans Munch. Et bon, vous avez trouvé Laurent Ronac, une bonne réponse.
Ouais. Alors là, Flavie, désolée,
mais c'est
pas évident.
C'est vrai que c'était pas facile.
Pas facile, facile.
On va voir comment se débrouille Bilal. Bonjour Bilal.
Salut Bilal.
Salut Bilal.
Bonjour Anne, bonjour l'équipe.
Bonjour. Salut.
Alors vous avez 30 ans, vous êtes préparateur de commandes chez Picard Surgelé, vous habitez à Vendeuvre-les-Nancy.
Oui.
Et vous écoutez l'émission tous les jours aussi, ben dis donc.
Ah ouais.
Chez Picard, vous écoutez en préparant les commandes ?
Ouais, j'ai des écouteurs faits sans fil. Alors je mets mon bonnet par-dessus et voilà.
Pas mal l'astuce.
Ouais.
Et quel est votre chroniqueur préféré alors ?
Benache.
Merci Bilal.
Homme de goût.
Merci Bilal.
Vous êtes un peu comme lui, c'est pour ça Bilal ?
Non, pas du tout, parce qu'il veut se marier en 2019.
Ah oui, rien à voir.
C'est ça, c'est un romantique.
Ah, vous allez vous marier en 2019, Bilal ?
C'est le projet, en fait. On va essayer d'économiser pour faire un grand mariage.
Ah, ah sympa. Beau.
Et vous vous connaissez depuis un an et demi?
On se connaît depuis plus longtemps. Enfin, ça fait 5 ans qu'on se connaît, mais on est ensemble depuis un an et demi.
Ah, ah, ah. Il s'est passé quoi les 3 premières années?
C'est sympa.
Vous étiez amis, juste amis?
Juste collègue.
Ah, elle est aussi chez Picard?
Oui.
Bah, c'était quoi le déclic? Comment on passe de collègue pendant 3 ans?
La chaleur du bac sur Vanille,
ça décongèle. On a brisé la glace.
Ça doit faire bizarre.
Mais le buffet du mariage, ça sera Picard, c'est bien.
On a sympathisé, c'est deux.
Et vous avez déjà sympathisé dans la réserve ou pas du tout?
Déconnez pas, parce que moi je suis client chez vous. Hein.
Mais il fait trop froid, t'es fou.
Ah, on n'a pas de réponse, Bilal. Vous répondez oui ou non?
J'achèterai plus de poisson pané. Plus.
J'achèterai plus les manchons de poulet.
En tout cas, moi, ce que j'adore chez Picard, c'est qu'ils te mettent dans le sac.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
C'est vraiment bourgeoise. Hein.
Mais c'est agréable.
C'est le petit plus.
Alors, par contre, il y a un truc qui se fait moins. C'est les crêpes surgelées fromage, il y en a moins.
Et le tiramisu, pareil, vous l'avez arrêté, c'est quoi cette histoire?
Ah, on est dans les revendications de produits.
On a vraiment l'impression de mieux vous connaître. Ces petits trucs-là, ouais, ces petits détails très importants, le sac, les crêpes au fromage.
Bon, Bilal, vous jouez avec qui?
Le héros. On doit faire deux, Bilal. Hein.
Ouais, ça devrait le faire.
Ça devrait être possible.
Ouais.
Attention, top chrono.
Alors, Bilal, il présente les 12 coups de midi, et du coup... Les 12 coups de midi sur TF1.
Jean-Luc Dargue.
Non.
J'ai oublié son nom. Ouais. Il a une tâche.
Ah, mais c'est toujours pas ça. Il chante J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Un chanteur, acteur qui joue dans Le cœur des hommes.
Les yeux revolver.
Vous devez faire deux. Hein.
Ouais. Il joue dans le bureau des légendes. Réalisateur, il joue dans La haine.
Mathieu Kassovitz.
Ouais, il joue dans Les Nous C'est Nous, il joue dans Brice Denis, c'est le copain de Jean Dujardin. Ils faisaient de l'humour ensemble, c'est la voix de Burger Quiz.
Ah non. Égalité.
Jean Dujardin.
Non. Bruno Salomon, vous êtes à égalité tous les deux. On va vous départager, vous êtes prêts?
Oui.
Alors, le premier qui trouve la bonne réponse... part en week-end au Dolce Frégate Provence Bandol Côte d'Azur.
Il faut être concentré là. Flavie, Bilal, attention.
Oui.
C'est très facile, donc c'est vraiment une question de rapidité. Vous êtes prêts?
Oui.
L'héroïne de Joséphine Ange Gardien.
Mimi Mathy.
Oui.
Belle hache, la défaite. Incroyable.
Flavie.
On doit faire de Mimi Mathy.
Un cri de joie, Flavie.
Je voulais juste dire que j'offrais le voyage à Villard parce que malheureusement je ne pourrais pas aller dans le sud cette année.
Oh, pourquoi?
Donc comme il va se marier,
mais c'est trop gentil.
Oh, elle est trop mignonne.
Vous êtes adorable.
Non, je ne pourrais pas avec mes enfants, j'arriverai pas à les faire regarder et puis traverser toute la France, donc je préfère l'offrir à Bilal.
Mais moi aussi je dois me marier.
Mais toi t'as pas encore trouvé avec qui, donc.
Vous êtes adorable,
Flavie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
faire un petit voyage de noces?
Une vraie princesse.
Vous savez, je crois que je joue à Lorient, je crois. Faut que je vérifie, je vous invite.
Mais j'ai des places. Je viens vous voir le mois prochain.
Ah, vous avez déjà acheté vos places?
Faut lui faire rejouer quand il y a un truc.
Mais offre-lui deux autres
places. Je vous offre deux autres places, comme ça vous pouvez venir avec vos enfants si vous voulez.
C'est gentil.
Je vous offre deux places en plus. Allez, ok, on fait ça.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et faut rejouer dans un mois pour aller promenager.
Et vous rejouerez dans un mois. Bilal,
trop
sympa.
Un cri de joie.
C'est super gentil, hein, c'est top. Hein.
Allez, faites un cri de joie, Bilal.
Merci.
Et dites, elle est tellement sympa, Flavie. Je pense que vous pouvez lui faire une petite commande Picard surgelé gratos.
Oui.
Là.
Ah oui, Flavie, oui.
Déguisez-vous en l'âge de glace, ça lui fera plaisir.
Non, mais c'est vrai, vous méritez. Hein, vous pouvez lui envoyer un peu du Picard quand même chez vous.
Oui,
hein,
on peut s'arranger.
Ah, ça, ce serait gentil. Donc, je vous dis ce que vous avez gagné, Bilal, grâce à Flavie qui vous a offert le séjour d'Europe 1 et le Dolce Frégate Provence. Vous offre un séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner, accès au jacuzzi, sauna, piscine, salle de fitness sur les hauteurs de Bandol, surplombant la mer et les vignes. Le Resort 4 étoiles Dolce Frégate Provence est un véritable écrin de verdure avec son golf, son spa, ses piscines intérieures extérieures. Plus d'infos sur dolcefregate.fr. Bravo, Bilal.
Bravo, merci beaucoup Flavie, c'est super sympa, merci Europe 1.
Ouais. Merci Flavie, hein, vous
merci
êtes un amour.
Mais
hein.
De rien.
On vous embrasse tous les deux,
salut.
Continuez à nous écouter. Au revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Léa Landau, Laurent Barra et Jérémy Lorca qui nous parlera de la marche pour le climat.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Londo, Jérémy Lorca.
Toujours là.
Moi, ça me touche beaucoup, cette femme.
Ah ouais, qui attends, a... Tu te dis ça redonne foi en l'humanité, mais
oui.
Vraiment.
C'est, ah Disney, ouais. C'est Disney. C'est Disney. C'est une vraie princesse Disney.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est adorable ce qu'elle a fait.
Ça n'est jamais arrivé. C'est
et
super.
Puis alors, gagner avec une bonne réponse, franchement, c'est un record.
T'as ça.
Non, vraiment, c'était génial.
Alors, c'est le dernier jour du printemps du cinéma. 4 euros la séance dans tous les cinémas de France. Est-ce que vous en avez profité? Vous aimez aller au cinéma? Vous avez un film à conseiller, Jérémy?
Ah bah, vous faites bien me le dire. J'étais même pas au courant. J'ai un rencard au ciné jeudi soir, je vais le décaler à ce soir, ça me fera des économies. Par contre, je vais voir un vieux film qui repasse, c'est lui qui a choisi, il m'a dit que ça symbolisait notre histoire. On va voir le Titanic. Je sais pas si c'est bon signe.
Laurent ?
Ah, moi, j'avais complètement oublié que c'était le printemps du cinéma. En temps normal, la place est tellement chère que ça fait une éternité que j'y suis pas allé. Tellement longtemps que le seul film que je pourrais vous conseiller, c'est La Grande Vadrouille.
Oh ah oui, non, t'es très vieux.
Ouais. Oh, tu vas pas au cinéma ?
Non, non, non.
Mais comment ça se fait ?
Bah, vous savez, Anna, maintenant, avec tout ce qui. Enfin, je peux pas le dire comme ça, mais les petits téléchargements, tout ça et tout, ça va plus.
Mais attends,
quoi.
Mais il y a rien de mieux mais que d'avoir un film sur un grand
oui, mais tout seul, comme non,
mais...
un vieux.
Bah, mais t'es pas tout seul avec les femmes.
Tu dans le métro.
Tu travailles avec les femmes que tu rencontres dans le métro.
Je picore, il les invite même pas au cinoche, quoi.
On n'est plus dans les années 90. J'ai pas allé au cinoche.
C'est vachement romantique.
C'est vachement bien.
Non, mais t'as des fauteuils pour deux.
Arrêtez de vous immiscer dans ma vie. Je fais ce que je veux de mon picorage.
Moi, j'adore aller au cinéma avec un amoureux. Je trouve ça super.
Moi aussi, j'adore. Même seul, c'est génial.
Quand le film est nul, tu fais des bisous. Après, tu regardes le film.
Vous êtes mon mentor. Vraiment, mets-toi après.
Maintenant, dans le cinéma, il y a une technologie qui s'appelle le 4DX. Je sais pas si quelqu'un a essayé.
Oui, oui.
J'ai eu un rendez-vous amoureux dans un cinéma 4DX.
C'est quoi le 4DX?
Le siège bouge dans tous les sens. Tu te prends de l'eau dans la tronche.
C'est pas du tout là. C'était un porno que t'as regardé, non?
Non, non, c'est les films d'action, tout ça.
Oui, ça, c'est pas propice.
C'est pas du... Mais je le savais pas avant, quoi.
Ben, Nash, vous allez au cinéma?
Bah, vous le savez, moi je suis un grand cinéphile. Moi, mes classiques, c'est Citizen Kane, d'Orson Welles, Le Mépris de Godard et Camping 3. Alors, actuellement, moi je vous recommande le film Rosie Davis qui est actuellement au cinéma.
Vous l'avez vu ?
Pas du tout, mais ça fait toujours intellectuel de parler d'un film dont personne ne parle.
Alors, non, mais si on peut conseiller un film qui est actuellement au cinéma, c'est Rebelle. Franchement, moi je le conseille à tout le monde.
Ouais.
Ah ouais, faut aller le voir. C'est vraiment une très 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 bonne comédie. Et Cécile de France, Audrey Fleurot et Yolande Moreau, elles sont incroyables. Non mais vraiment, allez voir ce film.
Et
ça
c'est produit par Léa Landau.
Non, mais même pas, tu vois. Non, non, parce qu'il faut aller au cinéma déjà pour faire vivre le cinéma.
On peut y aller ensemble si tu veux du coup.
Bah, j'ai déjà vu.
Râteau en pleine émission.
Jérémy Lorca, vous avez participé à la marche pour le climat ?
Et oui, et 1, et 2, et 3 degrés,
ah oui,
c'est
d'un sympa.
Crime contre l'humanité. Et oui, samedi, un peu partout avait lieu en France la marche pour le climat pour tenter d'alerter les autorités sur ce qu'on appelle l'affaire du siècle et faire passer un message au président de la République, non Emmanuel, attraper des coups de soleil au Touquet en décembre, c'est pas normal. D'ailleurs, moi je viens du Nord, donc la Côte d'Opale, j'y ai passé tous mes étés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en juillet au Touquet, la température maximale c'est 21 degrés, la minimale 14. Oui, ça donne pas envie d'y passer des vacances. Mais par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais petit, c'est énorme, 21 degrés, c'est les Bermudes. Nous, quand il y avait 14 degrés à l'époque, mais c'était un truc de ouf, on faisait péter le barbecue, on s'enduisait de crème solaire, histoire d'amortir le tube alors qu'on grelottait. Oui, j'ai vraiment passé des vacances de merde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se baignent au mois de mars, et tout ça à cause du fameux réchauffement climatique qui était dénoncé par les manifestants pendant qu'Emmanuel Macron était au ski en train de profiter de la neige. En même temps, il a raison de profiter de la neige tant qu'il en reste, hein, parce que la banquise, elle fond à vue d'œil. Et vous me connaissez, moi, la cause des phoques, j'y suis sensible. Alors on croit toujours que c'est un problème qui nous dépasse, qu'on ne peut rien faire pour la planète, c'est faux. Si on s'y met tous, ça peut vraiment avoir des répercussions. Par exemple, un truc tout bête, les pubs qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Vous savez, on n'a rien demandé. T'imagines le nombre de platanes qui ont été décimées pour produire des prospectus où t'apprends que des haricots verts sont à 1,29€ au lieu d'1,39€. Est-ce qu'il fallait vraiment tuer un arbre pour avoir cette information cruciale? Je ne suis pas sûr. Et bah si on met tout sur nos boîtes aux lettres, stop à la pub, on aide la planète. Pareil, au supermarché, au lieu de prendre plein de plastique, prenons un panier ou un tote bag pour faire des courses. En plus, il y a plein de messages sympas sur les tote bags. Moi, sur le mien, c'est marqué « Je cherche l'amour ». Et quand je le retourne, c'est marqué « Un plan cul, ça me va aussi ». Ah bah, je ne rentre jamais bredouille du Monoprix, hein. D'ailleurs, en parlant de courses, il faut acheter des produits de saison. C'est important de respecter la nature. T'as pas idée de manger une galette des rois en plein mois d'août. Et bah, arrête de vouloir manger des figues en février. Il y a un temps pour tout. Faut juste faire des petits efforts, par exemple. Je suis pas fanat de faire pipi sous la douche, mais je le fais parce que je suis éco-responsable.
Bien sûr.
Je veux économiser une chasse. Alors, je déconne un peu, mais c'est un sujet qui est très grave. grave. La planète, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants. Et l'ironie de la chose, c'est que samedi, pendant que des gens manifestaient pour lutter contre le réchauffement climatique, quelques rues plus loin, il y a des casseurs qui mettaient le feu à des magasins et à des immeubles. Alors quand j'ai vu les images des manifs pour le climat et les images des Champs-Élysées ravagées, j'ai repensé à Emmanuel Macron qui disait il y a quelques mois « Make our planet great again ». Eh ben écoute Manu, on n'attend que ça, alors à toi de jouer. Merci beaucoup.
J'ai beaucoup apprécié ce petit accent anglais.
Ouais.
Oui,
ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Make a planet great again.
Mec.
Ah
ouais. Shakespeare, il a fait un flip-flop.
Alors, demain, c'est le printemps. Voici des phrases qu'on se dit à la veille du printemps.
Ouais, le problème avec le printemps, c'est que tout fleurit.
Bah c'est joli, c'est quoi le problème?
Bah le problème c'est qu'il y a tout qui fleurit, même mon herpès.
Ah non,
ah le printemps, on va enfin pouvoir sortir du bureau pour déjeuner à l'air libre sur le banc d'un parc entre des pigeons qui nous harcèlent et un vieil SDF Yves qui gueule en se plaignant de la politique de Giscard.
C'est vrai.
Chérie, c'est le printemps, je me sens connecté avec la nature, là ça me donne envie de m'accoupler, de me reproduire pour enfin me sentir en totale symbiose avec toi et l'univers.
Ouais, en gros tu veux niquer quoi.
Ouais, mais je le disais mieux. Demain, c'est le printemps, enfin! Je vais pouvoir faire le grand nettoyage de printemps dans la maison. Hein. Allez, belle maman, faut préparer vos valises.
Ben. Moi, j'aime pas le printemps parce qu'il donne des ordres. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Eh, hey, ça va le printemps, t'es pas ma mère!
Vous avez vu les pigeons dragués, hein? Ils ont la poitrine qui se gonfle et la queue qui se bombe. Nous, c'est le contraire.
Oh, j'ai l'image, quelle horreur!
Horrible.
Pour moi, qui dit printemps, dit retour de mes allergies.
Quoi, le pollen?
Non, les Bermudas et les tongs. Ouais.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Laurent
oui.
Barallet, Alain Dobénin
ouais.
et notre invité, l'écrivain Michel Bussy, pour son livre « J'ai dû rêver trop fort » qui vient de paraître aux éditions Presse de la Cité.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Londo, Benal, Jérémy Lorca. Et notre premier invité, ça peut lui arriver d'être à l'ouest, mais il ne perd jamais le nord car il est écrivain et géographe, classé auteur numéro 1 de romans policiers avec ses 8 millions de
quand
livres
même.
Vendus, traduit en 35 langues, il peut à lui seul redresser la balance commerciale de la France. On l'accueille aujourd'hui pour une double actualité, son dernier livre « J'ai dû rêver trop fort » et l'adaptation en série télé de son best-seller « Un avion sans aile » sur M6 le 26 mars. Un triomphe pour Michel Bussy. Ouais. Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
C'est incroyable, deuxième auteur français le plus lu en 2018, premier auteur français de romans policiers, sixième année consécutive, vous êtes sur le podium des top 10 des auteurs les plus lus en France,
wow.
8 millions de livres vendus traduits en 35 langues.
Bah ouais.
Incroyable.
Bravo.
Bravo. Bravo.
C'est incroyable.
Bah ouais, vaut mieux pas y penser quand on écrit un livre. Sinon
c'est vrai,
ça
met trop de pression.
Ça met un seul vertige.
Ouais. Ah ouais, vous habitez en Normandie, vous n'avez pas changé de maison, malgré la fortune.
La fortune.
Non, mais voilà, la vie d'un écrivain, c'est quand même à 90% d'écrire un livre tout seul, chez soi, devant son ordinateur, donc on soit n'importe où.
Vous habitez à Darnétal, à côté de Rouen.
Ouais, ouais.
Ah ouais.
Alors ce qui est fou, c'est que vos premiers livres, vous les avez édités à partir de 41 ans. Qu'est-ce que vous avez foutu entre 20 et 40 ans alors?
Bah, pas grand-chose, hein, c'est vrai. Donc, non, j'ai rêvé.
C'est rassurant. Merci beaucoup, vous nous rassurez.
Donc, 41 ans, vous publiez dans une toute petite maison d'édition, les éditions des Falaises, donc un peu limite des livres qui n'ont pas tellement d'écho, en fait.
Ouais, bah moi, c'était un édition jeune. Quand on me demande, un jeune écrivain dit « J'aimerais commencer par le Goncourt, par Gallimard, etc. » Je leur dis « Non, commencez plutôt par un petit éditeur régional parce que vos livres seront beaucoup plus lus par un éditeur régional. Ils resteront dans les librairies régionales
longtemps.
Plus longtemps alors qu'on peut très bien publier un livre avec un grand éditeur et en vendre 300 parce que le livre sera oublié la semaine d'après. »
Et ce qui est formidable, c'est que tous les livres que vous avez publiés entre 41 et 45 ans ont été réédités ensuite par les presses de la Cité, c'est ça?
Ouais, c'est vrai, c'est des livres qui s'étaient vendus à quelques milliers d'exemplaires, quoi. Et c'est vrai qu'après, on les a ressortis au niveau national pour pouvoir avoir des traductions, etc.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le tout premier?
Ben moi, j'ai toujours écrit, mais comme il y avait un sondage qui est sorti, là, on disait à peu près il y a 10% des Français qui ont écrit un roman. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même quelques millions de Français qui ont des romans. Et il n'y a pas des millions de romans qui sont édités. Donc moi, comme beaucoup de gens, j'avais écrit des livres depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Quoi. Et puis, j'ai eu la chance à 40 ans d'être enfin publié. Mais je n'ai jamais renoncé.
Ça a dû changer votre vie quand même, ça?
Bah ouais, parce que c'est quand même un rêve qui devient réalité. C'est-à-dire quand on écrit tout seul des romans, on se dit qu'on sera jamais publié, qu'on n'a pas de talent, que, etc. Et que le jour où ça finit par marcher, c'est oui, c'est une espèce de rêve.
Vous, ça marche pas, ça marche très très bien.
Ouais, mais c'est comme gagner au loto, quoi. On joue au loto en se disant qu'on va jamais gagner le gros lot, mais on joue quand même en espérant.
C'est une hôtesse de l'air qui a 53 ans, qui est mariée, qui a des enfants, une vie rangée, et elle retrouve un amour de jeunesse qu'elle n'a jamais oublié. En fait.
Une passion qu'elle a vécue 20 ans plus tôt avec et des coïncidences. Voilà.
Et donc vous parlez comme si vous étiez une femme de 53 ans.
Exactement.
Et comment vous avez fait pour sentir ce que sentait une femme ?
Bah, ça, c'est le privilège d'être écrivain. C'est pour ça qu'on passe des heures tout seul à écrire. C'est qu'on se met dans la peau, me suis mis dans la peau d'ado, dans la peau de gamin de 3 ans.
Vous avez fait lire par une femme pour qu'elle vous dise si ça allait ?
Bah, beaucoup, oui, forcément.
Ah, beaucoup
hein. Tu ne peux pas lire mon livre parce que...
Ah ouais ? Non, plusieurs. Mais il y a eu pas mal de tâtonnements parce que c'est vrai que le regard sur Nathalie,
qui est mon héroïne. Vous avez été lui dire je tâtonne, viens m'aider.
Et donc ce regard c'était pas évident parce que c'est quand même une femme adultère qui certains.
Une formidable. Femme adultère, on dit plus adultère, c'est une femme qui profite de la vie.
Voilà, exactement. Ne vous manquez pas sur ces sujets-là avec Anne.
Non, non, bien sûr. D'où le regard très différent selon les femmes sur Nathalie. Certains l'adoraient, trouvaient qu'elle était très libre, d'autres au contraire la détestaient. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être pas mal.
Y a des femmes qui ont réagi mal en disant quoi
En trouvant que c'était pas normal, elle était mariée avec mère de famille, etc. Elle a pas comme ça à aller voir ailleurs. Et surtout, c'est quelqu'un qui, enfin Nathalie, elle assume sa liberté. Donc il y a des femmes qui trouvaient ça absolument immoral, la façon dont elle réagissait.
Alors il y a des passages très sensuels hein, dans ce livre. Permettez de le relire.
À l'antenne.
Oui. Iliane est au-dessus de moi, ses lèvres vont et viennent, passent de mes joues à mon cou, de la mèche de mon front à la pointe de mes seins. Je suis emprisonnée sous lui, la plus sensuelle des prisons. Son ventre cogne au mien, mes cuisses s'enroulent autour des siennes. Seul son sexe n'épouse pas le mien. Je le sens me frôler, s'écraser contre mon pubis, s'élever à nouveau, se rapprocher encore.
J'ai envie de faire l'amour.
Et là, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'elle ne lit pas, elle connaît le passage.
Europe. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Michel Bussy. Veut nous parler de son dernier roman J'ai dû rêver trop fort qui vient de sortir aux presses de la Cité. Et puis la série Un avion sans aile sur M6 à partir du 26 mars.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Londo, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Michel Bussy venu parler de son dernier roman J'ai dû rêver trop fort qui vient de sortir aux presses de la Cité. Alors il y a beaucoup de remarques hein, sur le couple dans ce livre, notamment la collègue Florence qui dit à Nathalie « À 40 ans, tous les mecs bien sont encore en couple avec leur boulet parce qu'ils n'osent pas la quitter. » Alors que les filles, elles, l'ont larguée. Ma chérie, après 40 ans, tous les types bien sont casés. Ceux qui restent ou reviennent sur le marché sont des planches pourries.
Oh allez, que Laurent a 40 ans. Je me barre. Sérieux ?
Mais toi, tu reviens pas sur le marché, oui, tu y es toujours resté.
Exactement, il y a une différence.
Tu n'as jamais quitté le marché. Le bac à solde.
Alors, vous pensez que les hommes pris sont bien ? Les hommes bien sont pris ?
Non, ça m'amusait beaucoup de me dire que c'est souvent la femme qui quitte l'homme. Donc, c'est vrai que dans un couple, c'est souvent la femme qui quitte l'homme et c'est rarement l'homme. Donc, du coup, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, effectivement, les hommes qui restent sont plutôt ceux dont personne n'a voulu. Quoi.
C'est de la lâcheté.
Bah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est de la lâcheté.
Souvent,
oui,
les hommes, on le dit, les hommes, ils passent de branche en branche.
Ouais.
Comme les singes.
Oui, c'est ça. Ils ne quittent pas avant d'avoir trouvé mieux.
Donc, il y a cette série Un avion sans ailes qui va passer sur M6, donc 4 fois 52 minutes à partir du 26 mars, avec Bruno Solo, Agnès Solal, Soral, Yanis Lesper, Anne Consigny, Didier Bezaz, Pénélope Rosévêque, Thomas VDB, Anne-Elisabeth Blateau, Margot Châtelier et Fouad Amara. Et donc c'est une série qui se passe en trois époques, 77, 86, 98.
Ouais, donc Un avion sans ailes, c'est un roman qui a été mon premier gros succès.
Gros succès ? Combien d'exemplaires vendus ?
On est à au moins 1,5 million, ouais.
Oh là là, trop la prime,
ça fait riche, hein.
Juste en France.
Ça fait bien.
Il y a Ben H qui a lu votre livre et qui a beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Michel Bussy.
C'est le seul bouquin qu'il a lu cette année.
Ouais, Anne, parce que dans cette émission, qui dit belle histoire d'amour, qui dit romantisme, dit Ben H, tout simplement.
Évidemment.
Et ce midi, dans le dernier roman de Michel Bussy qui est avec nous, on parle de ce sentiment qui m'habite, l'amour. Eh oui,
parce que votre récit, c'est une histoire d'amour et je ne vous cache pas que toutes ces histoires de coïncidences ont clairement fait écho à ce que je vis avec mon ex en ce moment. Ça me fait tout pareil. Le hasard et des coïncidences me remettent sans cesse à nous faire repenser à nous, notre histoire, notre passion. Dans votre histoire, par exemple, le personnage se replonge 20 ans dans le passé. Une éternité. Bon, moi, pareil, une éternité, il faut remonter à 20 jours. Alors, une éternité parce que comme votre personnage, je pensais avoir tourné la page. Moi aussi, je pensais l'avoir tourné. J'avais tourné une page dès le lendemain, puis une deuxième page, la troisième et la quatrième page en même temps, et une cinquième page ce week-end. Mais alors que tout semblait clair entre nous, elle réapparaît depuis quelques jours sous divers formes. Par exemple, j'ai plein d'amis sur Facebook. Quand j'y vais, je ne vois que des photos d'elle. Tout le temps, c'est elle, c'est tout le temps. Coïncidence ? Non, pas là, parce que honnêtement, il faut simplement que j'arrête d'aller sur sa page. Non, rien que la semaine dernière, pour tout vous dire, rien que la semaine dernière, je l'ai croisée trois fois. Une fois dans un bar, deuxième fois au restaurant, troisième fois à un concert. C'est complètement dingue. Alors oui, j'ai toujours ces codes de messagerie, mais j'y vais jamais. Bon, allez, une fois ou deux, tous les jours. Bon, encore hier, on est tombé nez à nez, l'un sur l'autre. Une pure coïncidence. Même elle a dit d'ailleurs, elle était plus surprise que moi. Elle s'est mise à crier comme ça. Ben, je peux savoir ce que tu fais là, chez moi? Là, je viens reprendre des affaires dans mon placard à culottes. Ok. Là encore, c'était pas vraiment une coïncidence. Elle avait juste pris un RTT. J'étais pas allé pirater sa messagerie depuis deux jours. Alors certains diront, Ben, c'est pas de l'amour, ça. C'est tous les symptômes d'un psychopathe. Mais où est la frontière entre l'amour et la folie? Et ben juste là, dans mon cas, si j'en crois la procédure d'éloignement lancée à mon encontre que j'ai reçue ce matin, la justice n'a visiblement pas cru à ma vision du mot coïncidence. Et dans votre roman, J'ai dû rêver trop fort, ce mot coïncidence prend encore une autre ampleur avec des intrigues plus élaborées que ma petite vie de célibataire déprimée. Alors je vous souhaite un grand succès avec ce livre, un de plus, j'ai envie de dire, Michel Bussy. Moi, faut que je vous laisse, mon ex vient de recevoir un texto d'un numéro que je ne connais pas.
Michel Bussy, vous avez déjà traqué une ex comme ça, comme Ben H?
Non, ça m'est pas arrivé, mais c'est excellent la chronique, parce que c'est exactement Merci. Ça le livre. C'est l'idée de partir d'une histoire d'amour avec les coïncidences qui sont au départ quelque chose de très, très, très agréable, finalement, de ne pas arriver à oublier quelqu'un qu'on a aimé. Et ça devient alors un côté de psychopathe ou un côté thriller, puisqu'à un moment donné, on va dire, mais ces coïncidences sont tellement extraordinaires
que
ça devient malsain. En tout cas, c'est plus moi qui les invente. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe qui devient surnaturel. Et donc, voilà, on bascule dans le thriller alors qu'on part d'une histoire d'amour. Donc c'est exactement ça. Et voilà, donc là, vous pourriez faire un excellent roman avec cette...
Tu tiens un début d'histoire. Voilà.
Non, mais on commence par quelque chose de très drôle et puis ça bascule petit à petit dans un truc.
Imagine, tu vends un million d'exemplaires.
Millionnaire, Ben.
Ah ouais.
Tu pourrais aller chez le coiffeur.
Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle votre livre, J'ai dû rêver trop fort, un roman qui vient de sortir aux presses de la Cité. Et puis la série Un avion sans aide sur M6 à partir du 24 mars. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est le footballeur Emmanuel Petit qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Landau, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité qui est le troisième but du 3-0 face au Brésil lors de la Coupe du Monde de 98. Star du football quand Mbappé n'était même pas encore né. Il a fait les beaux jours de Monaco et de Chelsea. Son franc-parler légendaire, sa légendaire queue de cheval font aujourd'hui de lui un consultant en football très demandé. Mais aujourd'hui, il vient nous parler de son polar footballistique Dernier Tac, Meurtre à l'OM, Une femme flic enquête aux éditions du Seuil. Emmanuel Petit avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Petit.
Bonjour Anne. Bonjour à tous.
Bonjour. Alors Emmanuel Petit, on vous a connu sur un terrain de foot. Aujourd'hui, vous publiez un polar. Qu'avez-vous envie de dire aux mauvaises langues qui disent que les footballeurs ne sont pas des intellectuels, qu'il faut être calé en géométrie de l'espace pour être capable de marquer contre le Brésil en finale?
Et ils ont raison.
Que vous aimeriez bien voir BHL rassembler 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées? Qu'un footballeur sait très bien servir de sa tête? La preuve, il peut même marquer des buts avec.
On est plus doué pour manier les chiffres que les lettres. C'est clair.
Ouais.
Mais bon, je pense qu'on ne va pas encore lutter contre les clichés.
Ça vous énerve, ça, quand on dit
que footballeur... Non, pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai...
À un moment, ça vous énervait?
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était tout souvent réducteur. Il y a beaucoup de sportifs qui sont très diplômés au niveau universitaire. Donc, on ne va pas retomber dans ce débat-là. Donc, vous savez, c'était des étiquettes qui nous collent à la peau depuis tellement de temps et que ça ne changera jamais.
Maintenant, ça ne vous fait plus rien?
Non.
Et Franck Ribéry, donc, c'est un littéraire incompris?
Vous voyez, vous
voyez, ouais, il le cherche un peu aussi. Voilà.
Ah, Emmanuel Petit, vous avez écrit ce livre avec un co-auteur pour vous, la littérature.
Gilles
Del Palpas. Pour vous, la littérature, c'est aussi un sport d'équipe ?
Oui, ça peut, oui.
Il fallait quelqu'un qui vous fasse la passe décisive, il vous a coaché ?
Disons que je n'ai pas les compétences du monde du polar et je n'ai.
Vous aviez les idées, mais vous ne saviez pas comment.
Ça fait longtemps que je le gardais dans le coin de ma tête. Et comme on a très, très bien accroché tous les deux.
Lui, il est Marseillais.
Exactement. Ouais. Et je me suis dit, bah, banco, parce que lui, il a tout cet univers du polar, tout ce qui est séquentiel.
Lui, c'est un photographe d'origine grecque et écrivain. Voilà. Gilles Del Palpas, en fait, c'est Nikos Aliagas.
Bah, je l'ai vu samedi au Salon du Livre, Nico, donc je le salue.
Emmanuel Petit, c'est un polar qui se passe dans le milieu du football. Oui. L'entraîneur de l'OM est retrouvé mort.
Oui.
Bon, du coup, on connaît la fin, c'est les supporters qui l'ont tué à force de perdre.
Non. C'est allusion au PSG.
C'est le fruit d'un fantasme que vous avez eu un jour, un meurtre à Marseille. C'est vraiment un fantasme.
Non, mais non. Marseille, parce que Gilles est né à Marseille, parce que Marseille, pour moi, c'est le club à l'époque où j'étais joué en France, c'est le club le plus populaire. C'est une ville qui vit et respire au rythme des victoires et des défaites de son club.
Ou alors, vous n'aimez pas Rudy Garcia ?
Non, pas du tout. Et malgré le fait que pendant longtemps, j'ai eu maille à partir aussi avec ce qui se passait à l'OM, je n'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Je leur souhaite bonne chance et que du succès à l'avenir. Mais en plus, il y avait un contraste aussi social saisissant dans le livre. C'est le premier d'une trilogie d'ailleurs. Je voulais mettre aussi à la fois en évidence que le foot était aussi un ascenseur social pour beaucoup de gens. Donc il y a un contraste social entre les quartiers nord et aussi les quartiers UP.
Ce roman Dernier Tacle est le premier d'une trilogie.
Mm-hmm.
Comme c'est la force est avec vous, quoi. C'est Star Wars.
Il n'y aura pas de lien entre les... Simplement, il y a trois personnages qui survivront.
Reviendront.
Alors oui, il y a trois cœurs d'histoire.
Le deuxième roman s'inspira de la Coupe du Monde de 90.
C'est ça.
Vous annoncez déjà que vous allez inventer une histoire où dans chaque ville où les Bleus ont joué cette année-là, il y aura un mort.
Dans chaque stade.
Incroyable.
Chaque victime sera un journaliste sportif. Non, parce qu'en 98, vous avez dû avoir envie d'en éliminer quelques-uns quand même.
Oui, mais encore une fois, ça fait partie du jeu.
Mais d'ailleurs, vous utilisez les vrais noms des joueurs dans votre livre.
Oui, et ceux même
qui...
moi, oui.
Ouais. Mmh. Et ceux qui meurent, non, c'est des personnages fictifs.
Non, mais je rassure mes anciens coéquipiers, parce que dès que je sors un bouquin, il y en a beaucoup qui flippent. Donc,
Ils ont des choses à cacher.
Et pourquoi
je rassure, c'est une fiction. Donc, et ça aussi, justement, ça... non seulement c'était un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais en plus, contrairement aux anciens livres, je n'avais pas de cadre juridique à respecter.
Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Exactement.
Et là, ça permet une liberté
avant,
totale.
À chaque fois, j'avais toujours les responsables
avocats,
juridiques qui m'appelaient. Là, on ne peut pas le dire. Ça, il va y avoir des poursuites. C'est de la diffamation. Je n'ai pas le sentiment
et
de faire des choses mal.
C'est pas de la diffamation ou c'est la vérité, en fait ?
Oui, mais aujourd'hui, la vérité n'est pas bonne à dire. Elle n'a jamais été bonne à dire, la vérité. D'ailleurs, on me l'a souvent répété, ça. J'ai bientôt 50 ans. On continue à me le dire. La vérité n'est pas bonne à dire. Bah, on n'a qu'à vivre dans le mensonge continuellement. Regardez dans le monde dans lequel on vit. Ça vous convient, vous ?
Par contre, vous aviez un bon ami dans l'équipe de France en 98. C'était Robert Pirès. C'était votre pote, lui. Vous
Robert, Tutu, Pat Vieira, Fabien Barthez.
Avec qui vous fumiez dans les vestiaires. Ouais.
Après la finale.
Ouais, après la finale. Vous fumez toujours ?
Toujours. Je fume encore plus. Non.
Mais vous fumez combien de cigarettes ?
Bah, j'étais passé à 10, maintenant je suis un paquet par jour.
Ah non ! On va vous donner des adresses.
On ne peut plus rien faire, on n'a plus plaisir, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire, plus fumer, on ne peut plus baiser, on ne peut plus rien faire en fait.
Si boire, manger, baiser, on peut, mais fumer,
on peut plus rien faire.
On va vous donner des adresses d'hypnotiseurs pour arrêter de fumer.
Ça a l'air de beaucoup de
brancher. On est très dans les médecines parallèles.
Oui, on est très parallèles.
Déprimé là.
Bon, allez, on va s'en griller.
On va vous prendre en main, Emmanuel Petit.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Emmanuel Petit. Il veut nous parler de son livre Dernier Tacle, Meurtre à l'OM, une femme flic enquête. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi. Avec Laurent Barra, Léa Londo, Ben H, Jérémy Lorca. Et notre invité Emmanuel Petit venu nous parler de son livre Dernier Tacle, Meurtre à l'OM, coécrit avec Gilles Del Palpas, un thriller dans le monde du foot. Un thriller.
Thriller
dans le monde du football. Alors, Emmanuel Petit, vous avez été petit. Emmanuel Petit, petit. On n'a jamais dû vous le faire.
Non.
Vous mesurez combien là, maintenant, Emmanuel Petit ?
1m87.
Ah ouais, c'est bien.
Impressionnant.
Vous rêviez d'être menuisier. Un menuisier, quand on est petit, c'est du modélisme ?
Non, j'étais très doué avec mes mains.
Lui dites pas ça.
Non, elle en peut plus là déjà.
Choisissez tous vos mots, Emmanuel.
Oui, il faut faire attention à tout maintenant. Non, je voulais absolument devenir menuisier. J'adorais travailler le bois parce que je trouve que c'est un matériau noble et qui a une histoire à raconter. Et j'étais passionné également de cuisine. Je le suis toujours. Malheureusement, mes mains n'ont jamais eu le même talent que mes pieds.
Alors, vous dites quelqu'un qui a été très important dans votre vie, c'est Arsène Wenger. C'est comme un deuxième papa. Mmh. Et vous dites à un moment, il vous teste dans un match, il vous fait venir dans son bureau et il vous dit « Emmanuel, tu ne sors pas assez ».
Oui. C'était le lendemain de mon premier match en professionnel.
Ça, c'est incroyable.
Il y avait une hécatombe dans l'équipe première. Moi, j'étais au centre de formation et ça fait un petit moment qu'il me suivait. Il m'a projeté comme ça, très rapidement dans le monde professionnel. Et j'ai joué mon premier match contre le FC Sochaux à domicile au Stade Louis II. Et j'étais au marquage de Stéphane Paille, qui était l'avant-centre de l'équipe de France à l'époque. Paix à son âme, puisqu'il est décédé depuis. Ouais. À l'époque, j'étais assez taciturne, très introverti. J'avais du mal à parler, à communiquer avec les gens. J'avais une certaine violence en moi et beaucoup de tristesse et de déception également. Et donc, il est venu me voir et puis il m'a dit « Je te félicite pour ton match hier, ça devait pas être évident. » Et il m'a dit « Est-ce que tu sors ?» Et je lui ai répondu « Sortir en boîte de nuit ou dans les bars ?» Oui. Il me dit « Pas trop. » Je lui disais « Ma vie, elle est très simple. Je viens à l'entraînement, je me lève, je viens à l'entraînement, je rentre chez moi, je déjeune, je dors. » Quand il y a un deuxième entraînement, je reviens à l'entraînement. Après, je rentre chez moi, je mange, je dors.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est triste.
C'est une vie monacale, mais vous ne pouvez pas vous permettre autrement. Lorsque vous voulez devenir sportif de haut niveau, il vous faut une discipline de fer. Ouais. Il faut presque rentrer.
Et là, Arsène Wenger vous dit, il faut que tu sortes.
Oui.
Et là, vous êtes sorti.
Alors, je lui ai répondu ça. Je n'ai pas compris qu'un entraîneur m'incite à sortir, alors que c'est contraire justement au principe même du haut niveau. Il m'a dit, si tu veux te découvrir en tant que joueur, il faut que tu puisses te découvrir en tant qu'individu. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut...
Extérioriser,
exactement. Donc,
et vous dites que ça a changé votre vie, ce conseil.
Bah, après, je pense qu'il a certainement dû se dire, bon, maintenant, il va falloir que tu arrêtes un petit peu de sortir.
Le Kumba tous les soirs.
Parce que quand vous avez commencé à sortir, vous n'êtes plus là, vous avez
non,
plus arrêté.
Non, mais tout le monde se rappelle un petit peu de la trajectoire tragique de José Touré.
Bien sûr, bien sûr.
À cette époque-là, on jouait ensemble également à l'AS Monaco. Donc, j'avais un exemple aussi concret devant moi. C'était le futur grand joueur français.
Mais il y en a eu tellement.
Il avait une étiquette de Brésilien français. Il faisait rêver les gens à chaque fois qu'il jouait sur la pelouse. Et puis, il a une fin tragique. Donc, à cause des sorties, toutes ces dérives autour. Quoi.
Et donc, du coup, vous êtes mis à sortir. Elle est en boîte.
Oui. Tel un papillon, j'ai butiné sur toutes les fleurs qui se présentaient.
C'est ce que je disais, du butinage. C'est ce que je fais moi aussi. Mais tout pareil.
Toi, tu dis picorer.
Je butine aussi.
Le problème, c'est que de nos jours, il y a de moins en moins de fleurs.
Exactement.
Si, mais elles sont fanées.
Ouais. C'est pas qu'elles sont fanées, elles deviennent de plus en plus rebelles.
Elles ont des épines.
Des épines chou et compagnie.
Bien sûr, on peut plus butiner. C'est vrai qu'il y a de plus en plus.
Vous pouvez plus rien faire aujourd'hui.
Non,
faire gaffe. Si vous êtes épiés.
Exactement.
On est pieds, c'est les réseaux sociaux aussi.
Tout ce que vous pouvez dire, les actes. Aujourd'hui, avec tous les téléphones.
Vous êtes filmé n'importe quand.
Mais il faut faire attention à tout. Vous êtes dans le public, vous ne savez pas comment agir maintenant.
On a la même vie, vous et moi, Emmanuel Petit. C'est vrai.
Moi, ça me fait flipper. Quoi.
Vous avez peur de vous retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça ?
Écoutez, je ne vais pas encore faire le rebelle ou quoi que ce soit, mais moi, les réseaux sociaux, j'en veux pas, j'en voudrais jamais. Voilà.
Mais regarde Castaner, il va en boîte, il pécho une nana et c'est vrai qu'il est déjà dans la presse.
Alors, c'est pour ça que vous n'allez plus en boîte, Emmanuel Petit, à cause des.
Ouais, puis à 50 ans, on va plus en boîte à 50 ans.
Ah, bah,
moi j'y vais.
On va dans d'autres boîtes, mais pas celle-ci.
On en apprend des choses. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec notre invité Emmanuel Petit, venu nous parler de son livre Dernier Tac, Meurtre à l'OM. L'OM, une femme flic, enquête aux éditions du Seuil, coécrit avec Gilles Del Papas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Landau, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Emmanuel Petit venu nous parler de son roman Dernier Tac, Meurtre à l'OM. Donc c'est le premier d'une série de 3 romans, ça va être donc une trilogie. Vous dites à un moment, Emmanuel Petit, que ça vous a gêné de gagner autant d'argent ?
Oui, aujourd'hui.
Et vous en avez donné du coup ?
Ah, j'en ai donné beaucoup, j'en donne toujours beaucoup aux gens.
Vous avez une culpabilité de cet argent ? Vous trouviez que c'était trop ?
Je viens d'un milieu modeste, ça ne veut pas dire que je ne suis pas prédisposé à gagner de l'argent, mais...
Mais vous en donnez même, alors vous en avez donné à votre famille, à vos amis, même à des gens, à des inconnus. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai un projet en Normandie. Ouais. On pourrait s'associer.
Bien sûr.
Emmanuel Petit. Non, c'est
mais des inconnus, c'est-à-dire des gens qui venaient vous voir pour.
Ouais, des gens que je croisais, des gens qui sont venus devant moi, désespérés, en train de pleurer. Et je sentais vraiment qu'il y a une sincérité, une histoire derrière. Tu sentais qu'il y avait. C'était presque une question de vie ou de mort, quoi. Ouais.
Vous dites aussi, Emmanuel Petit, que vous êtes passionné par les vêtements.
Oui.
Et que quand vous voyez quelqu'un, vous savez si cette personne, elle, ses vêtements lui conviennent.
Oui.
Alors nous, par exemple.
Moi, je trouve qu'on a tous, on cherche tous une identité.
Ouais.
Et je trouve que les tenues vestimentaires disent beaucoup sur la personnalité d'une personne.
Oh merde,
elle est en salopette aujourd'hui. Elle a 8 ans.
Moi, j'ai ressorti un vieux gilet parce que j'avais froid. Ce
bah matin. Justement, c'est marrant ce que vous venez de dire parce que c'est exactement ça. Anne Ronin, je ne vous connais pas,
ouais.
Mais vous avez gardé votre âme d'enfant en fait.
Bien sûr.
Bah oui.
Enfin, de jeune fille.
Oui.
Et par exemple, Ben H.
Moi, le bobo.
Ouais, un petit peu, ouais, mais en même temps, un petit peu avec les cheveux, un petit peu en pagaille comme ouais. Ça, c'est-à-dire que à la fois bobo, un petit peu classique, mais en même temps, il y a un petit côté rebelle, un petit côté hors cadre.
C'est tout, ouais.
Hors cadre. Et Léa ? Oh, bah là, bah, vraiment, je me suis pas sapée.
Au réveil, au réveil.
C'est classique, mais ouais. C'est une tenue de travail.
Exactement, ouais, et je l'enlève quand je rentre.
Et Jérémy Lorca ?
Tenue de boulot aussi, je suis très simple aujourd'hui.
Ouais, très simple, ouais. La mais sobriété, voilà.
Ouais.
Vous êtes très looké, en revanche.
Ouais, ah ouais. C'est magnifique.
Moi, je suis. C'est mon style.
Et moi, c'est, quoi,
moi,
c'est quoi,
soit
comme
cuir ou soit.
Il y a un côté personnage de Game of Thrones, ouais. Vous êtes entré.
Bah, moi, je suis un peu intemporel, ouais.
Laurent Barra tenait absolument à vous rencontrer. Emmanuel Petit, c'est un grand fan devant l'éternel.
D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a pas parlé de sa tenue et vaut mieux pas.
De sa tenue ? Non, mais elle est bien, sa tenue.
Merci, Emmanuel.
Oh, genre, tu l'appelles par son prénom, tu le connais depuis 10 minutes.
Ben non, pas du tout. Parce que quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Nous sommes en septembre 1990, et c'est avec ce trait d'humour bien involontaire qu'à l'âge de 11 ans, j'ai rempli la fiche de renseignement d'entrée au collège, répondant à cette question censée situer le niveau de motivation d'un élève. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Et là, où d'autres répondirent vétérinaire, astronaute ou encore orthodontiste, ma réponse fut immédiate et sans rature. Quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Les moqueurs, les esprits chagrins, souvent situés autour de cette table, diront que vu ma taille, on peut considérer que j'ai atteint une partie de mes objectifs.
C'est un rêve qui se réalise.
Et pourtant, Emmanuel Petit, vous ne me connaissez pas, mais vous êtes mon plus vieux copain d'enfance. Je ne compte pas le nombre d'heures de colle passées à recopier 200 fois. Il ne faut pas bousculer ses petits camarades dans le but de leur voler, racketter ou extorquer des vignettes Panini à l'image d'Emmanuel Petit. Je ne compte pas le nombre d'heures passées à ne plus pouvoir uriner tellement j'avais pleuré ce triste soir de défaite contre la Bulgarie. Je ne compte pas le nombre d'heures passées à uriner tellement j'avais bu après votre troisième but magnifique contre le Brésil. Période de recherche identitaire où je poussais la schizophrénie jusqu'à me délecter des biscuits apéritifs tuc dont vous vantiez les mérites à la télévision. Biscuits me rapprochant plus de la silhouette d'un petit gros que de celle d'Emmanuel Petit. Icône publicitaire, collectionneur de trophées, adulé par les femmes, détesté par les chauves. Cette catégorie d'hommes moins chanceuses que vous, Emmanuel, qui à partir de 30 ans prennent du Propecia. Ce médicament aux effets secondaires mal maîtrisés, dont la particularité amusante est de faire pousser autant la poitrine que les cheveux. Vous me direz, il y a les implants, mais les implants ça coûte cher et ça se voit. Quand tu passes en 48 heures de Pascal Obispo à Donald Trump, ça attire l'œil, même des plus distraits. Emmanuel Petit, vous étiez un joueur différent, amoureux du foot, beaucoup moins de ses coulisses dans lesquelles les arbitres étaient parfois plus payés que les joueurs. Pas étonnant de vous retrouver quelques années plus tard dans la peau d'un romancier à la plume aussi adroite que votre pied gauche, avec ce premier tome au titre alléchant. Dernier tacle, meurtre à l'Olympique de Marseille. Ouais. Choix marketing, beaucoup plus judicieux, je vous l'accorde, que si vous l'aviez appelé « J'ai perdu mes clés au FC Metz ». Et mes jaquets, pourtant avares de compliments avec ses joueurs, vous glissez à l'oreille après la finale de 98. Tu as été le meilleur, mon Manu. Je ne doute pas que l'on dira la même chose de votre roman très prochainement. En tout cas, face à cette reconversion très réussie, le quarantenaire que je suis peut encore une fois dire « Quand je serai plus grand, je voudrais être petit ».
C'est gentil. Merci.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, le footballeur Emmanuel Petit, venu nous parler de son premier roman, Dernier Tac, coécrit avec Gilles Delpapas, un thriller qui s'intitule Meurtre à l'OM, une femme flic enquête aux éditions du Seuil.
Anne Romanoff sur Europe 1.
fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, oui. Léa Londo, oui. Ben H, oui. Jérémy Lorca, oui. Et notre invité Emmanuel Petit, venu de parler de son roman. C'est un thriller, hein, il faut le dire. C'est pas un roman, c'est un, oui.
C'est
un roman policier.
Un roman policier.
Dernier tacle, meurtre à l'OM, une femme flic enquête. Ça a dû surprendre les gens que vous vous mettiez à écrire un polar.
Mais j'étais pas un dribbleur sur le terrain, mais j'aime bien prendre les gens à contre-pied dans ma vie.
Ouais.
Alors c'est vrai que, encore une fois, avant de me lancer dans ce projet-là, j'avais toujours à l'esprit, et je l'ai toujours d'ailleurs, même quand je suis allé au Salon du Livre, j'ai pas le sentiment d'être à ma place. J'ai même le sentiment des fois de peut-être déranger. Et vous savez comment ça se passe, hein. Dès que vous sortez un petit peu de votre univers, il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois, qui vous remettent en question, pour qui il se prend, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de faire abstraction, de passer outre, et de me dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais me faire défoncer. Donc de toute façon, ça fait très longtemps que je me fais défoncer. Donc,
puis il faut aller au bout des choses. Hein.
Moi aussi.
Ah oui, mais toi, t'aimes ça.
Oh non.
Ok.
Oh non, on va laisser la chaise entre nous. Hein.
Alors, Emmanuel Petit, en 2005, vous avez mis fin à votre carrière de footballeur après plusieurs mois de galères et de blessures. Ouais. Finir une carrière de sportif à 35 ans, c'est pas mal quand même.
34 ans, c'était en 2004. J'ai arrêté ma carrière. J'ai eu une ostéotomie de la jambe droite. On m'a sectionné la jambe à deux endroits.
Et alors, vous êtes devenu après consultant, commenter le foot, ça vous fait plaisir, ça, ou c'est...
Analyser le foot, ça me fait plaisir. Alors, vous savez, moi, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai été dans les droits télévisuels sportifs pendant 15 ans. J'étais actionnaire dans différents groupes, en France et à l'étranger. Dans tout ce qui est l'industrie du football, en fait, j'étais un touche-à-tout. Je connaissais parfaitement les tenants et les aboutissants du terrain. On est vraiment...
Et là, toutes ces activités ont été des réussites, Emmanuel Petit, à chaque fois, vous avez gagné.
Sauf les droits télévisuels, où ça a été un énorme échec financier.
Pourquoi ?
Quand la FBI a fait sauter le verrou de la FIFA.
Ouais. Oui, mais vous avez pas
perdu. La FIFA a implosé.
Ouais.
Son président Sepp Blatter a été débarqué.
Ouais.
Et puis, il y a toutes les agences, justement, qui ont été les intermédiaires, les agences comme moi, je faisais partie, où on achetait les droits...
Vous les revendez
aux fédérations et on les revendait aux télédiffuseurs. Et aujourd'hui, la FIFA comme l'UEFA essayent d'éradiquer toutes
ces agences,
les intermédiaires pour avoir encore plus d'argent.
Vous n'aimez pas tellement la FIFA, Emmanuel Petit.
Écoutez, quand vous voyez encore Infantino, qui était l'ancien sbire de Michel Platini, qui aujourd'hui est le grand patron, le grand manitou foot français alors qu'il est né, il a vécu dans le même patelin que Sepp Blatter. Excusez-moi, mais on se fout de la gueule de qui, quoi.
J'adore.
Non, mais sérieux.
Il a raison,
on est à
vrai,
une époque où tout se sait en permanence et personne ne fait rien. Quand on voit ce qui se passe avec les politiques dans le monde entier...
Oui. C'est comme les grands lobbyistes.
C'est du grand foutage de gueule. Moi, je vous le dis, tel que je le pense. Non, j'aime pas la FIFA. Non, j'aime pas l'UEFA. Voilà, tout simplement.
Et voilà.
Bravo.
Bien
c'est
dit.
Bravo. C'est dit.
En plus, il a pas l'air commode quand il
s'énerve.
Non,
j'ai pas l'air commode parce que là, on parle d'un sujet qui, pour moi, tient extrêmement à cœur. Et même si je sais que ces entités font un travail colossal et remarquable pour l'émancipation des individus à travers le monde, on est quand même 350 millions de licenciés de football dans le monde. À aucun moment, on demande à ces licenciés d'avoir un avis lors des élections. On est représenté par de l'entre-soi en permanence, par des petits gens qui ont accaparé le football, qui ont détourné justement l'essence même du foot. Et aujourd'hui, on ne pense qu'à faire du pognon. Moi, je n'ai rien contre faire du pognon, mais faire du pognon pour faire que du pognon, il n'y a pas de logique derrière. Et moi, je trouve qu'au contraire, on devrait revenir à des choses qui sont fondamentales pour le bien-être de l'individu. Et on peut quand même faire du pognon, mais en étant justement très, très à l'écoute de ce qu'attendent les gens en permanence. Qu'est-ce que vous voulez ? On est là que pour faire du pognon et tout le monde faire sa gueule et il n'y a plus de rapports humains. On l'a déjà à travers les réseaux sociaux, on se déshumanise en permanence. Moi, je lance un appel, un SOS, mais réveillez-vous les gens, quoi. Réveillez-vous, arrêtez d'être sur vos réseaux sociaux. Prenez le temps, allez voir les gens physiquement. Prenez le temps d'aller prendre un café avec eux, de leur parler et tout.
C'est ce que je dis dans les sites de
rencontres. C'est chiant de voir à quel point on continue dans cette logique où on se déshumanise en permanence. Est-ce que quelqu'un peut réveiller le monde, quoi ?
Bah vous ?
Non, moi non, j'ai pas cette prétention-là et c'est pas mon rôle. Mais ça me fatigue, les médias ne jouent plus leur rôle.
C'est donc l'appel du 19 mars.
Ouais, voilà. Emmanuel Petit, je vous présente Léa Londo. Je ne sais pas si elle va vous réveiller. Léa Londo, je ne sais pas si elle a des choses à vous dire.
Oui. Bon, Emmanuel Petit, vous êtes surtout ici pour votre livre Dernier tacle, meurtre à l'OM, une femme flic enquête. Déjà, c'est le titre le plus long du monde, quand même.
Oui.
Donc, c'est un polar. Donc, façon interrogatoire, moi, je vous ai préparé une interview droite au but.
Allez.
C'est parti. Pourquoi une femme flic ?
parce que j'aimais bien le contraste justement dans le monde machiste, même si ça a beaucoup évolué pour les femmes dans le monde du football, dans le bon sens du terme.
Avouez quand même que depuis votre livre qui mettait en page votre vision du foot, qui s'appelle déjà Franterie Tireur, vous aviez déjà des envies de meurtre en vrai.
Ouais.
Le titre.
Ouais, j'aime bien les titres un peu accrocheurs.
Alors certains ex-joueurs de foot sont devenus comédiens comme Cantona, Leboeuf, d'autres animateurs télé comme Ginola.
Oui.
Vous, c'était un rêve d'être auteur ou ça vous est tombé dessus par hasard ?
L'écriture m'accompagne depuis ma plus tendre enfance.
Ouais.
Ça a été à la base, j'avais pas de volonté justement d'écrire il y a très longtemps. C'était juste pour moi justement de trouver la possibilité de sortir tout ce que j'avais à l'intérieur, parce que je m'exprimais pas beaucoup.
Ouais.
Et l'écriture a été pour moi de raconter tout à la première personne. C'est un peu un journal intime comme une fille.
C'était votre confident, quoi, le papier. Oui. Vous avez quand même essayé la chanson. Vous faites le titre 3-0 avec Sophie Thalmann. Et ce duo vous a mené tous les deux partout, sauf vers une carrière musicale.
Oui.
En même temps, normal, on écoute. Vous n'avez jamais rêvé d'être chanteur, Emmanuel Petit ?
Non, mais Pascal Obispo, on avait enregistré Love for United à Londres il y a plus de 20 ans.
Ouais.
Il était venu me voir, il m'avait dit « mais t'es celui qui chante le plus juste de tous les joueurs ».
Ah ouais ? Vous êtes un
Ça m'aurait bien plu de faire une carrière de chanteur, oui.
Alors vous êtes un inconditionnel de Bob Marley.
Bob Marley, musique classique, hard rock.
Vous nous faites pas un petit bout de Bob Marley ?
Ah ouais, ça serait cool.
Get up, stand up.
Get up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Ah, ben si, un beau temps. Alors là, comme ça, vous avez écrit un polar, quelle est votre série policière préférée entre Columbo, Les Experts, NCIS ou Navarro ?
Columbo.
Columbo.
Ah, Columbo.
Bah ouais, d'ailleurs, c'est ça.
Columbo, c'est incroyable, quoi. Vous découvrez à chaque fois l'assassin et derrière, vous avez tout le cheminement, quoi.
C'est... Ouais, c'est ça.
Et j'adore sa personnalité, j'adore comment il est, quoi.
Merci beaucoup, Emmanuel
Merci
Petit.
Merci à vous.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Emmanuel Petit, on a une tradition dans les émissions. Chaque jour, on démarre une histoire. Donc aujourd'hui, on est mardi.
Oui.
L'histoire a été démarrée hier par
Hélène Segarra.
Hélène Segarra. Oui. À vous de la poursuivre aujourd'hui avec un mot imposé à piocher dans le chapeau.
Et il faut que je fasse quoi avec ?
Allez-y, piochez
le
mot.
Il faut insérer le mot dans votre phrase.
Champion.
Champion. Alors on va écouter l'histoire d'Hélène Segarra. À vous de la poursuivre.
Lorsque je lui ai servi mes tartelettes à la figue, j'ai senti qu'un courant passait entre nous.
Un courant tellement puissant que ça a fait de moi un champion et que je suis devenu ton roi.
Allez.
Merci Emmanuel Petit d'être passé nous voir. On rappelle votre livre Polar, dernier tac, meurtre à l'OM, un polar footballistique, une femme flic mène l'enquête, qui vient de sortir aux éditions du Seuil, coécrit avec Gilles Delpapas. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci. Merci.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.